Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pour beaucoup d'entre nous, le confinement a été une période d'introspection. Vous avez peut-être eu envie de déménager ou carrément de changer de vie. Pour accompagner cette réflexion, Code Source vous propose pendant ses vacances d'été 6 témoignages d'hommes et de femmes qui ont déjà franchi le pas au micro de Claudia Prolongeau. Aujourd'hui, François Héry, 48 ans, il vit près de Nantes. Suite à des problèmes de santé, il a quitté l'informatique pour se lancer dans la magie.
J'ai donné rendez-vous à François devant le Jardin des Plantes de Nantes. Il habite à 30 km au sud de la ville, dans une maison avec sa femme et ses deux enfants. Il a 48 ans, il est discret et il se décrit lui-même comme timide et réservé. François rate le début de ses études. Venu de Vendée, d'où il est originaire pour faire un BTS à Nantes, il n'est pas accepté en deuxième année. Et quand il l'apprend, il est trop tard pour s'inscrire à la fac. Il a alors 20 ans et sait qu'il va passer une année à Nantes sans rien faire.
J'aurais bien voulu bosser dans le domaine artistique, mais je ne savais pas quel domaine artistique en particulier. Et j'allais rentrer en Vendée chez moi pour le week-end. Et je rencontre une amie qui était là, je lui parle de ma situation, je suis chômeur, je voudrais prendre des cours en je ne sais pas quoi dans artistique. Elle me dit « Oh, ben, j'ai pris des cours de théâtre sur Nantes avec deux profs qui sont géniaux, tu peux y aller, ça va débuter bientôt. » Là, j'ai pris des cours de théâtre et j'ai un très bon ami que je connais depuis maintenant 46 ans. Lui, il a pris des cours de magie et il était très content de faire ça. Donc, à chaque fois qu'on se voyait, « Tiens, regarde, tiens, prends une carte. Tiens, hop, c'est celle-là. »« Ah oui, c'est super. Oh, regarde comment je fais. Tiens, je vais te montrer. » Alors, le premier tour de magie que j'ai appris, je pense que c'était un tour de foulard. Mon pote qui m'a initié à la magie, il avait un prof. Et c'est ce prof qui m'avait montré comment faire. C'est l'histoire d'un foulard rouge, par exemple, qu'on va disparaître dans un foulard vert. Il m'a montré comment faire et j'ai vu ça. J'ai dit « Oh, c'est tout. C'est ça seulement. C'est nul. » Mais quand c'est bien fait, c'est génial. On pouvait bosser des tours ensemble ou alors chacun bossait de son côté et puis on montrait à l'autre et l'autre nous disait « Ah non, ça c'est pas terrible, ce serait mieux de faire ça. » Après, on a rencontré d'autres magiciens, on a pu sympathiser et de fil en aiguille, on a continué la magie. On est allé à des congrès de magiciens, on a acheté des DVD, des tours et puis on s'est perfectionné là-dedans.
Pourquoi à ce moment-là, vous vous êtes pas dit que du coup vous alliez essayer de faire ça de votre vie ?
Parce que déjà je débutais. Donc, j'étais pas assez doué. Pour moi, c'était pas un métier stable. Sûrement avec le poids de la famille qui déjà devait planer sur moi, disant faut que tu fasses un métier bien, voilà, avoir de l'argent. Voilà. Et je savais pas du tout quoi faire. Et puis, j'ai un copain qui faisait des études d'informatique. Je lui ai demandé c'est bien l'informatique ? Il m'a dit ah ouais, c'est bien. C'est moi, ouais, je suis content, j'aime bien ce que je fais. Ah d'accord. Et puis après, j'ai cherché des formations dans l'informatique.
François trouve ses formations. Les paye, même assez cher, et a un peu de mal à trouver du travail derrière. Il finit finalement par être embauché en tant que développeur informatique. Vous aimiez ce que vous faisiez ?
Je dirais oui. J'avais des copains sympas, je m'amusais bien, mais je me mettais trop de pression, ça marchait pas bien. Et à la maison, je rapportais avec moi tous les problèmes de la journée. Je la ramenais le soir, je la ramenais la nuit, parce que j'y pensais tout le temps. Donc, de fil en aiguille, je peux dire que non, j'étais pas franchement bien dans ce métier.
Pendant des années, François mène cette vie qu'il croit satisfaisante. Début 2006, alors qu'il travaille déjà depuis 9 ans dans la même entreprise, son corps va commencer à montrer des signes de faiblesse. Et lui va la prendre en allant donner son sang.
Il m'avait refusé à ce don parce que j'avais un cœur qui battait trop vite. Je ne sais plus combien j'avais en pulsation, je ne sais plus si j'étais à 100 ou à 130, allongé, en train de prendre ma... Voilà. Donc ils m'ont dit d'aller consulter, je suis allé consulter, j'ai eu droit à une fibrocoloscopie et là j'ai vu que j'avais un petit début d'ulcère dans l'estomac. Donc, je me suis dit, ah zut, il va falloir baisser la pression et puis voir ce qu'on peut faire, quoi.
Malgré cette première prise de conscience, François ne parvient pas vraiment à faire redescendre la pression. L'ulcère grossit et son mal-être aussi.
Ça a commencé à pas aller bien au niveau du stress, niveau de la colère, niveau de l'emportement, quoi, la prise de tête avec ma copine. J'étais pas très vivable et un soir je suis parti en voiture, ma voiture m'a lâché au milieu de nulle part, pas très loin de Nantes. Donc j'ai appelé ma copine pour qu'elle vienne me chercher et puis j'ai laissé ma voiture là-bas. Et c'est le lendemain que la police m'appelle me disant « Oui, votre voiture a été retrouvée, vandalisée, plus de pare-brise, plus de roues, plus rien. » Ah, je dis « Ah ben zut, comment je vais aller au boulot ?» Donc j'étais en société de service, en informatique, c'est-à-dire ma boîte qui m'employait m'envoyait à droite et à gauche chez des clients. J'avais prévenu mon client que le lendemain, je ne viendrai pas, j'ai des formalités à faire avec mon assurance. Il y avait un manque à gagner pour ma société qui m'employait. Ça n'a pas plu à mon supérieur. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que j'étais plus considéré comme une machine, comme quelqu'un qui rapportait de l'argent, que comme un être humain. Et après, je suis allé au boulot en train et en taxi. D'abord, je prenais le bus, après le train et puis après le taxi. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs mois. C'était usant de voir qu'on était juste un chiffre d'affaires et rien d'autre. Je me suis dit, la première occasion, je m'en vais, je quitte la boîte, je trouve autre chose, je sais pas quoi, mais j'en peux plus. Dès que je peux, je file. Peu de temps après, je suis allé en entretien chez un client et les horaires ne me convenaient pas parce que le midi, il y avait 2 heures de pause, on ne pouvait pas réduire ces 2 heures. Donc je me disais, je vais partir super tôt le matin, je vais rentrer super tard, je vais voir personne. Si je vais pas pouvoir tenir comme ça pendant, je sais pas, un an, j'en peux plus. J'ai dit virez-moi, mon commercial. Une semaine plus tard, j'étais licencié. Et c'est là que tout a commencé.
François est donc licencié, pour faute simple, ce qui lui laisse des droits au chômage. Mais il est surtout soulagé. Il n'a même pas eu le temps de se demander s'il a vraiment fait le bon choix, que son chef lui prouve une dernière fois que oui.
Juste avant de partir, il y a le patron de la boîte qui vient me voir, qui dit « bah on te souhaite, tout le monde te souhaite bonne chance dans ta nouvelle vie ». Tiens, ça me rappelle, on avait un salarié qui, comme toi, voulait se lancer dans le milieu artistique, dans les guitares. Donc il s'est lancé effectivement dans les guitares, il est parti, puis au bout de 6 mois, et vu que ça marchait pas, il est revenu.
Sur ces paroles, François ferme la porte à plus de 10 ans de sa vie. Au moment de quitter définitivement son bureau, il ne sait pas ce qu'il fera, mais il est enfin serein.
J'aurais continué là-dedans, je pense que j'aurais pété des câbles de temps en temps, je me serais énervé le soir à la maison, je pense que je serais devenu célibataire à force, mais à l'époque, on parlait pas de burn-out. Ça pouvait être le début d'un burn-out. C'était pour moi un gros malaise, c'était une question de vie, de, je peux dire de survie, parce qu'il y a des métiers beaucoup plus terribles que le mien à l'époque. Mais j'en pouvais plus. Et c'était physique, ça attaquait le physique, ça attaquait la santé. Donc il fallait arrêter, sinon où est-ce que ça serait vraiment arrêté, si j'avais continué dedans, quoi. Plus fait peur à ma famille de savoir que je quittais un CDI pour aller vers l'inconnu, pour aller vers un métier de, entre guillemets, de saltimbanque, où rien n'est sûr, rien n'est acquis, où on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Soit théâtre, soit magie. Le temps du chômage pour me retourner, si ça ne marche pas, je ferai un autre métier et voilà.
François rentre chez lui et la nouvelle vie débute.
Là, je ne cherchais pas de travail parce qu'à l'époque, je ne savais pas trop où chercher des annonces de magiciens, de comédiens, des choses comme ça. Je me mettais plus dans le côté, je vais travailler un tour de cartes, je vais perfectionner ou qu'est-ce que je pourrais dire en plus, quel jeu de mots je pourrais dire à ce moment-là, comment je pourrais améliorer mon tour. Bon, je me disais, avant, je bossais beaucoup. Là, la magie, il faut que je la bosse beaucoup. Sinon, je ne me sentais pas légitime. Voilà, c'était plus ça que je faisais. Et puis par hasard, je suis tombé sur une annonce et c'est là que ça a commencé.
Le hasard, c'est en fait sa compagne qui repère cette annonce postée par un cabaret en recherche de magicien. François est au chômage depuis 3 mois, il n'est pas encore très sûr de lui, mais il postule quand même.
D'abord, c'était un entretien oral, je discutais avec le directeur. Et puis après, je devais présenter des numéros au patron et puis aux artistes qui travaillaient là. Je sais qu'on était deux à présenter. Il y avait un autre magicien qui était là et puis il y avait moi. C'est marrant parce que j'avais pas la pression. Je dis, ah, lui, c'est un magicien, c'est un professionnel, c'est son métier. Bon, ben, ils vont pas me prendre parce que moi, c'est pas mon métier. Moi, j'ai encore rien fait là-dedans. Donc, j'avais pas de pression. C'est peut-être ce qui m'a sauvé, d'ailleurs, pour que j'ai réussi à faire un tour de magie cool, tranquille. Et l'ambiance que j'apportais leur a plu au patron et puis aux salariés aussi. Et c'est moi qu'ils ont pris. J'étais super étonné déjà, que ce soit moi et pas l'autre, qui pour moi était professionnel depuis longtemps. Et seulement 3 mois après, je trouve du boulot et je trouve ça génial, moi. J'ai pas eu le temps de paniquer pendant 2 ans en me disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Là, je trouve rien, qu'est-ce que je vais faire. Je suis resté 2 ans là-bas et c'est là que j'ai fait mes premières armes. J'avais jamais bossé dans un cabaret, je connaissais pas du tout. C'est dur, c'est dur parce qu'il y a plein de choses qu'il faut connaître et une logique à savoir. Parce qu'on n'est pas tout seul, il y a les serveurs, il n'y a pas que les clients à notre table et les autres clients qui peuvent parler, donc il peut y avoir du bruit. Il y a un timing à respecter parce qu'il n'y a pas que moi. Après, il y a le spectacle, parce que moi je passais aux tables pendant le repas, mais après le repas, il y a le spectacle sur scène. Donc il y a plein de choses, le timing, le respect des clients. Tout ça que je connaissais pas et j'ai appris ça au fur et à mesure. Et le cabaret, c'était une école très formatrice et je regrette pas du tout. Et maintenant, je travaille dans un autre cabaret et j'adore le monde du cabaret.
Alors, je vais vous faire un petit truc très très simple avec 4 cartes. On va y aller doucement. 4 cartes. 4 cartes identiques, 4 jokers.
François prend le pseudonyme de Milord Larsouille en hommage à ses professeurs de théâtre qui l'appelaient comme ça. Et commence le cabaret qui lui permet très vite d'avoir le statut d'intermittent et d'être au même niveau financièrement que quand il était informaticien. Au bout de 2 ans, il arrête de travailler au cabaret qu'il embauche, poussé par l'envie de voler de ses propres ailes. Et pour cela, il doit à nouveau convaincre.
Personne ne me connaissait, donc j'ai démarché tout ce qui était mairie, camping, école. Donc j'ai fait que ça au début, et puis de fil en aiguille, j'ai réussi à me faire un petit réseau, les gens pouvaient me reprendre, ou ils pouvaient en parler aux autres écoles, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à vivre après le cabaret, parce que là j'avais pas de rentrée d'argent fixe, fallait que je me débrouille pour démarcher, pour que mes devis soient acceptés auprès de mes clients. Ça, c'était pas évident parce que certaines fois, certains jours, j'avais 2 coups de fil de clients qui me disaient ah ben non, on vous prend pas, on va en prendre un autre. Donc là, ça faisait un coup au moral parce que je m'étais dit ah super, je vais avoir 2 dates, il ne manque plus que 15 pour avoir mon prochain statut d'intermittent. Ah, il ne manque plus que 17 maintenant, zut. J'avais du stress évidemment, mais ce stress-là, c'était pas le même que dans l'informatique, parce que là, je pouvais voir grandir ma famille, être avec elle. Quand on est magicien ou chanteur comme ça, il y a des jours où on peut bosser à fond, le lendemain faire moins. Il n'y a pas de règle au niveau des horaires, on peut rien faire une journée, et le lendemain bosser la journée, et puis en pleine nuit se lever, et puis bosser un tour, bosser une scénographie. On n'a pas d'heure. C'est ce qu'il y a de bien aussi.
Alors que François se construit un réseau, fin 2007, il est contacté par un client très particulier, son ancienne boîte d'informatique, qui veut lui demander une prestation pour une soirée d'entreprise.
Je trouvais ça super sympa qu'il m'appelle. Et puis j'y suis allé les voir, mais sans aucune aigreur, sans aucune rancœur, parce que j'avais pas le statut de salarié informaticien. J'avais le statut de magicien, un autre statut, et c'était marrant de revoir mes collègues, de les épater. Moi, je croyais pas être un dieu en informatique, mais être assez calé dans ce que je faisais. Et puis, il y a beaucoup de collègues qui m'ont dit « On n'a jamais compris ce que tu faisais là, toi. » Donc, je l'ai mal pris sur le coup quand ils m'ont dit ça. Maintenant, ça me fait marrer, quoi. Ça me fait marrer d'avoir tenu aussi longtemps dans l'informatique, quand même.
Ils avaient raison.
Ils avaient pas tort. Quand je suis sur scène, j'explose, quoi. Entre guillemets, je suis l'inverse de ce que je suis en société.
1, 2, 3, 4. Donc, ce qu'il y a de marrant avec ces jokers-là, c'est si jamais j'en prends un, celui-là, je le retourne, je claque des doigts, tous les jokers, les 4, ils se retournent.
Dans la vraie vie, je suis plus timide, réservé, alors que sur scène, je suis totalement à l'inverse. Je suis excentrique, je suis nos limites.
Voyons voir ça. 1, 2, 3, 4. trois jokers face en haut et un face en bas.
Je sais pas comment il fait en plus.
Je pense que si j'avais continué dans l'informatique, il y aurait une partie de ma vie qui n'aurait pas été exploitée. Il y a souvent des gens qui me disent, lorsque tu es sur scène, c'est ta vraie personnalité qui parle. Donc je pense qu'effectivement, il y aurait une partie de moi-même qui aurait été dans l'ombre, qui n'aurait pas pu vivre. J'aurais loupé ma vie, oui.
Claudia, François, quand on l'écoute, clairement, il n'a plus du tout envie de revenir à son ancienne vie.
Non, pas du tout, parce que François, comme il le dit, quand il est sur scène, il a l'impression qu'il est réellement lui. Et il pense que s'il n'avait pas fait ça, en fait, il aurait raté au moins une partie de sa vie, peut-être toute sa vie. Il n'envisage pas du tout de revenir en arrière, d'autant qu'il a trouvé un travail qui lui plaît beaucoup, puisqu'il travaille dans le plus grand cabaret des Pays de la Loire, qui s'appelle La Belle Entrée. Et ça fait 3 ans qu'il est le magicien titulaire de ce cabaret, donc il est vraiment très heureux.
Et ses problèmes de santé, ils sont terminés ?
Ils sont terminés, il n'a plus de douleur au ventre, comme il me l'a dit, et il m'a même dit qu'il pouvait à nouveau donner son sang, et que la dernière fois qu'il y était allé, son cœur battait à 60 battements par minute, donc c'était très bien, et qu'il était vraiment en bonne santé.
Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Benjamin Boucrich et John Timsit. Réalisation, Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser des petites étoiles ou des commentaires sur votre appli de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict.